Le match s'est terminé de la façon qu'on a commencé, avec une mauvaise décision.
Et accueillons maintenant Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Mauvaise décision, mauvais jeu dont tout le monde parle encore au lendemain de cette défaite, cruelle défaite contre les Islanders de New York. Bon, moi, j'ai entendu tes propos tout de suite après le jeu, mais pour les auditeurs qui n'étaient pas là, je pense que si on se demande qui Julien blâme sur cette séquence, en tout cas, si on te le demande à toi, je pense que Domi est le gars qu'on doit regarder, là.
Ben là, c'est porteur de la rondelle. Moi, quand ça arrive, ces situations-là, on dit toujours, ouais, mais là, c'est parce que c'est bon, c'est une suite d'événements. Alors, OK, on le sait, c'est un jeu qui est en mouvement, mais le porteur du disque, c'est lui qui a la responsabilité de la gestion. Et sur la séquence, tout ce qu'il a à faire, c'est de replacer la rondelle dans le fond de la zone. Même si Kulak a quitté le point d'appui, là, s'il envoie la rondelle dans le fond de la zone et Kulak continue de la pression sur une rondelle qui ne revient pas vers le centre de la patinoire. Alors, et il y a aussi, tu sais, il faut regarder la décision de Jonathan Drouin de travailler sur un jeu en transversal, un jeu à risque alors que le pointage est d'un à un puis qu'on doit simplement consolider le point avant de se lancer à l'attaque, si tu veux, pour le point volé.
Ah, c'est une séquence de quelques secondes, mais il y a tellement de phases dans ce jeu-là. Commençons par le début. Quand Drouin déborde sur le flanc droit, les options qui s'offrent à lui, je pense que tu aurais peut-être souhaité, comme nous tous, le voir effectuer un lancer au but. Mais on parle de Domi au moment où il touche à la rondelle. Mais sur cette séquence-là, comment ça se fait que Domi continue pas, lui, au filet pour devenir une option de passe à Jonathan Drouin?
Ben, il est trop tard. C'est que le jeu se fait...
Ben, il est trop tard parce qu'il ne suit pas le jeu.
Il va vers le filet.
En retard.
Oui, il est en retard. Puis de toute façon, j'imagine que dans les circonstances, ce que tout le monde anticipe, c'est que Jonathan place la rondelle au filet du côté rapproché, c'est-à-dire du côté intérieur, pas lancé du côté extérieur. On est en fin de match. Si tu lances du côté extérieur, le gardien de but fait dévier la rondelle. Ça se peut que ça se transforme en revirement. Donc, c'est la séquence que tu veux éviter, c'est celle qui s'est produite. Là. Tu veux absolument que la rondelle demeure dans une zone où tu veux continuer de la pression dessus et tu gardes le jeu devant toi pour utiliser l'expression consacrée. Donc, personne derrière toi, donc pas de revirement, pas de surnom.
Ouais. Mais en tout cas, moi, là, dans mon livre à moi, pour utiliser une expression consacrée, Domi a d'affaires à venir piquer au net puis s'offrir en passe. Je veux dire, t'essaies de gagner le match. J'ai vu 5 matchs qui se sont gagnés sur des séquences comme ça dans les dernières secondes cette semaine ailleurs dans la Ligue nationale parce qu'il y a un gars qui s'est offert en option de passe. Puis là aussi, il y avait une avance à protéger.
Ouais. Ben moi, au départ, c'est le jeu le moins risqué, c'est de placer à rondelle au filet.
Là-dessus, c'est sûr, ouais.
C'est parce que, écoute, t'es dans une situation quand même assez particulière. La deuxième chose, c'est qu'une fois que la rondelle se retrouve dans une situation libre, ben, t'essayes pas de ramener la rondelle dans le centre. Là. Tu gardes la rondelle en périphérie.
Là, tu parles de...
Je parle toujours de Domi, qui aurait dû, quant à lui, placer, ramener la rondelle dans le fond de la zone. Au lieu de la garder, quand tu vois, là, il y a comme un jeu, c'est une espèce de jeu renversé, là, et ça se produit vraiment très, très rapidement. Puis moi, je pense que ça aurait dû être fait de cette façon-là. Ça aurait dû être placer la rondelle dans le fond de la zone pour essayer de ramener la rondelle dans la zone critique sur l'enclave.
Est-ce que la décision de Kulak est excusable d'aller dans le fond du territoire?
Non. Il est dans la même situation. Lui, il suit le jeu, puis il prend pas la bonne décision. Il prend une décision à risque. Là où ça s'aggrave, c'est qu'il y a du capouillage entre lui et Domi. Puis Domi décide de garder la rondelle. Fait que là, ça rend la situation vraiment très, très, très fragile, on va le dire comme ça.
Et si tu me permets, tu n'es pas obligé d'être d'accord avant d'aller à la conclusion de ce jeu-là sur le 2 contre 1, parenthèse Domi. Il me semble que c'est un jeu qui incarne bien ce qu'il offre comme performance depuis plusieurs semaines, garde trop longtemps la rondelle, essaie de se faire des jeux pour lui-même. Puis il y en a eu d'autres jeux dans le match d'hier qui n'ont pas coûté de but, où il aurait pu mettre son équipe dans le trouble.
Ah non, c'est sûr. Écoute, la gestion du match, là, moi hier, là, ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est que comme entraîneur, tu prends toute l'année pour en gérer dans ces situations-là. Ce que tu fais, c'est que tu as bâti ton équipe. Tu t'attends à ce que l'équipe réagisse de la bonne façon, gère le cadran. C'est comme, écoute, on est dans la Ligue nationale. On sait très bien que le point que le Canadien poursuit est un point extrêmement important parce qu'ils ont marqué un seul but. C'est dur de gagner des matchs à l'étranger. Quand ton gardien te donne le genre de performance que tu as besoin, tu t'es en place. Là. Ce que tu as besoin, Mario, c'est de gagner ce point-là.
Ah, je suis d'accord. En fait, c'est ça qui fait mal, parce qu'au moins, si tu as digéré une défaite, mais tu repars avec un point, tu dis, bon, mais au moins, on a avancé un petit peu au classement. D'ailleurs, ce qu'on souhaite exactement. Du côté de Columbus-Caroline ce soir, c'est qu'il y ait un club qui perde, mais qui ne perde pas avec un point grâce à une défaite en prolongation. Hein?
Exactement. Exactement. C'est ce qu'on souhaite qui n'arrive pas aux autres, c'est ce qu'on souhaite à nous, là, dans le sens où...
Quand tu perds?
Tu peux pas perdre. Tu peux pas te retrouver le gros Jean comme devant. C'est une situation qui était... Écoute, les planètes alignées, là, moi je me disais, mon Dieu, écoute, avec une performance comme celle-là de Carey Price, pis c'est drôle, hein, parce que entre la 2 et la 3, l'équipe est restée plus longtemps dans le vestiaire, puis les entraîneurs étaient au banc. Et j'ai dit à Martin, j'ai dit, waouh, là je sens que l'équipe est vraiment en mission, qu'ils ont bien, se sont parlé entre eux, de là l'importance de la troisième période, de bien gérer le cadran. Écoute, j'ai été vraiment estomaqué de voir la décision 1 de... En fait, c'est une combinaison. C'est Douin et Domi ensemble ont mal géré le cadran. Ça leur appartient, c'est leur responsabilité. Puis évidemment, dans l'effet domino, on peut pas exclure de l'équation Kulak, mais pour moi, c'est pas le fautif parce qu'il n'y a pas de charondette.
Ouais. Et si on s'attarde à ce qui est collectif, le jeu de puissance, mais la façon dont l'équipe a entrepris le match sans enlever le mérite aux Islanders de New York, Claude Julien était vraiment pas content de l'effort de ces gars première période. Puis c'est pas la première fois là. On remarque depuis 2-3 semaines, puis depuis la dernière fois qu'ils ont battu une équipe là, une grosse équipe dans la Ligue nationale, ça fait une mèche. Ils commencent pas leur match avec beaucoup de panache. Est-ce que, comme Claude l'a verbalisé il y a quelques semaines, cette équipe là a entre guillemets craqué?
Ben, c'est que là, il y a de moins en moins de contributions de la part des joueurs clés. C'est de plus en plus difficile pour les joueurs clés de se démarquer. Alors, et habituellement, quand ça arrive, tu te dis, il y a deux moments où tes joueurs clés peuvent se démarquer. C'est évidemment lorsqu'ils ont des vraies chances de compter. Et sur l'avantage numérique où tu as plus de temps et d'espace pour t'exécuter. Alors, si tes joueurs clés sont pas capables de profiter des chances en avantage numérique, là où il y a plus de temps et d'espace, ben là, la confiance commence à s'effriter. Et de là, l'importance d'avoir une contribution élargie, puis toute la gymnastique autour du troisième, quatrième trio, qui, en passant, a été le plus menaçant en troisième période, parce que Kotkaniemi a eu deux fois sur la palette des opportunités de mettre fin aux hostilités, ou tout au moins à ce que donner l'avance à son équipe.
Et tu as raison de souligner le travail de Kotkaniemi, parce que j'essaie toujours de garder une note encourageante, je te dis pas pour demain, mais pour le futur. Et la façon, alors que certains semblent très hésitants à aller dans les zones périlleuses, Kotkaniemi, même s'il s'est retrouvé quatre fers en l'air sur le derrière plus souvent qu'autrement hier soir, a continué d'attaquer le territoire adverse et aurait pu marquer un but très significatif dans ce match-là.
Ah oui, c'est sûr. Il y avait la victoire sur sa palette en troisième période, fait servi une feinte absolument magistrale, là. Je pense que c'est Mayfield qui était le défenseur. Il a ramené la rondelle vers lui, il l'a fait reculer, il a décoché un tir. Grice a probablement effectué un de ses plus beaux arrêts à ce moment-là. Donc, le jeune, il aurait mérité là de marquer son premier but hier, je trouvais, dans les circonstances à l'étranger, parce qu'il a été un joueur qui a été très menaçant. Puis, tout en étant bon défensivement, puis en gérant bien le cadran, c'est quand même à tout à son honneur, ça reste un jeune joueur. Là, puis, dans ce dossier-là, il n'a définitivement pas été le pire.
On a parlé, je ne sais pas combien de fois, de l'inertie du jeu de puissance depuis le début de la saison. Dany, je nous le garde en conclusion. Quand on sera rendu au bilan de la saison et qu'on pointera en direction de ce qui n'a pas marché, clairement que le jeu de puissance va être au top de la liste. Là. Et ça va être quoi de bilan? Ça te coûte une place en série là, de ne pas être capable de marquer un but de temps en temps en jeu de puissance? Là.
Ben, tu sais, il est clair que le jeu de puissance, c'est un effet stabilisateur. Quand tu as des matchs de plus en plus difficiles à gagner à l'étranger, ton avantage numérique va te donner des victoires. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Que ce soit en première ou en deuxième moitié de saison, plus en deuxième moitié de saison, et même si c'est 2-3 matchs où ça fait basculer en ta faveur le pointage, mais c'est 6 points, ça. C'est 5 points, 6 points, c'est une montagne à ce temps-ci de l'année. Donc, effectivement, dans l'évaluation de l'après-saison, dans le post-mortem, on ne pourra pas regarder l'aspect de l'avantage numérique en disant « Ah, oh, ben, tu sais, c'est un aspect où il faut s'améliorer. » Non, non.
Non.
Tu sais, quand tu fais partie des bonnes équipes de la Ligue offensivement, cette année, le Canadien a quand même marqué sa part de but. Il faudrait trouver des solutions. Puis ça veut peut-être dire d'aller chercher un joueur qui est capable d'amener cette dimension-là, qui peut jouer sur un troisième trio, qui amène une dimension importante sur l'avantage numérique. Même si l'affaire, c'est pas l'affaire d'un homme, l'avantage numérique, Mario, il ressent toujours que tu as des joueurs qui prennent, qui s'approprient cette phase de jeu-là. On se souvient qu'Avanek s'est amené avec le Canadien. C'était pas un joueur qui était extraordinaire à 55, mais il avait quand même une contribution assez significative dans ce département.
Danny, sur ça, je te souhaite une bonne soirée et on t'écoute en compagnie de Martin dès 18h30 demain soir.
Super. Merci beaucoup, Mario.